À tous. C'est plaisir que cette salle elle est blindée un peu. Hein? C'est un beau côté, hein, plaisir près. On est un peu trop serré, il fait chaud, il y a trop de bruit. Mais qu'est-ce que c'est beau de voir, de se dire on chante à Dieu, on est ensemble, on se réunit en famille et on se retrouve ici dans cette petite salle. Et on ne sait pas, hein, peut-être que Dieu dans quelques années aura prévu une plus grande. Et voilà, mais pour l'instant, on est là et on est réjouis d'être là. C'est chouette. Et ce matin, moi, je vais vous inviter à ouvrir vos Bibles ou à regarder avec moi un texte de l'évangile de Marc au chapitre 4. Et pour ceux qui sont ici pour la première fois ou qui ont loupé quelques cultes, en fait, ici, avec l'église de Meynier, on est en train de faire un suivi. Donc, on lit l'évangile de Marc et puis on essaie de s'arrêter à certains points. Et l'idée, c'est de faire tout l'évangile de Marc jusqu'à je ne sais plus quelle date, mais on va essayer de le faire en entier. Et là, ce matin, là où nous, on va voir, on va donc au chapitre 4, au verset 35. Et ce qui est bien, c'est que si vous êtes là pour la première fois, les disciples qu'on va voir, les disciples de Jésus dans ce texte, c'est la première fois qu'ils subissent une épreuve avec Jésus. Donc avant, il y avait un peu toute la théorie, et ce matin, c'est la pratique. Ah, c'est pas exactement ça, mais donc là, vous savez que c'est la première fois que les disciples ils vont vivre quelque chose vraiment d'intense, de personnel, qui éprouve les disciples avec Jésus. Alors, donc Marc chapitre 35, et je vais lire le texte, et vous allez voir que juste après le verset 37, je vais m'arrêter. Et normalement, c'est possible que ça marche pas, mais normalement, il devrait y avoir le son d'une tempête dans les haut-parleurs. Et l'idée, c'est juste que pendant ce son, on se plonge dans la tête que, en fait, si je peux avoir la première image, s'il te plaît. Voilà. En fait, on est ici, dans cette région, vers Israël. Et encore un petit peu plus précisément, on se trouve ici, dans le lac de Tibériade, ou bien la mer de Galilée. Il a deux noms, donc c'est des fois bon à savoir. Donc on peut s'imaginer, là, il y a Jésus avec ses disciples. Ça fait toute la journée qu'il est sur le bord de la rive en train de parler à une foule immense, bien plus que vous encore. Et à la fin de la journée, il dit, et là je prends directement le verset 35, « Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où ils se trouvaient. » Donc les disciples emmènent Jésus. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Petite tempête. Et là, c'est drôle, vous allez voir. Et lui, donc Jésus, il dormait à la poupe sur le coussin. Et là, les disciples, eux, ils sont paniques. Ils le réveillent et lui disent « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi !» Puis il leur dit « Pourquoi avez-vous si peur? Comment n'avez-vous point de foi? » Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, « Qui est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ?» Ils arrivèrent à l'autre bord, dans le pays des Gadaréniens. Non seulement ce texte, il est énorme parce qu'il va nous montrer que Jésus, il est plus puissant que toutes les tempêtes qu'on peut avoir dans notre vie. Mais il est aussi énorme parce qu'en fait, ce texte, ça fait 2000 ans ça fait 2000 ans que Jésus était sur ce petit lac, et on en parle aujourd'hui, ce matin. et c'est un impact, et j'espère que ça aura un impact pour nos vies aujourd'hui. Et moi qui suis là devant vous, j'en suis absolument convaincu, et j'en suis le premier à en avoir bénéficié, que ce texte a bien de l'impact. Alors peut-être vous arrivez aujourd'hui ce matin un peu comme les disciples. Vous êtes dans votre vie tous les jours, mais vous êtes déjà peut-être dans une tempête ou peut-être vous allez en affronter. En tout cas, là, ce qu'on voit, c'est que tous ces disciples, donc ils sont 12, et dans ces 12, il y en a 4 qui sont marins. C'est des pros. Ils prennent la barque, ils vont sur le bateau, mais ce n'est pas des amateurs. Ils savent manier, ils savent gérer la mer. Et pourtant, ils sont là, ils se font surprendre par une tempête. À tel point que même leur professionnalisme, ils sont perdus. Ils arrivent au bout, ils disent à Jésus, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» Alors peut-être que c'est vous, aujourd'hui, vous êtes submergés par les difficultés, par les soucis de la vie, vous n'en pouvez plus, et vous dites peut-être aussi, « Mais Jésus, tu t'inquiètes pas de ce que je vis ?» Et je vais vous raconter une petite histoire que j'ai vécue, où il y a eu ce genre de question qui est apparu. Tu peux mettre l'image dessus, pardon. C'est l'histoire de Jean-Claude et de moi, donc vous allez voir deux têtes. Et en fait, avec Jean-Claude, on est parti, ça fait il y a 2 ans, on est parti ensemble au Népal avec une équipe pour une aide humanitaire et puis pour permettre aussi à des Népalais de pouvoir accéder à l'Évangile, de voir la Bible, ce Dieu qui les aime. Et on marchait en direction d'un village appelé Maina. Donc on était vraiment dans l'ouest du Népal. C'est un endroit vraiment paumé. C'est pas un endroit très touristique parce qu'on n'allait pas jusqu'à l'Himalaya, mais pourtant on est bien dans les montagnes, dans des petits chemins de montagne, et tout perdu. On était à 3 jours de bus de la capitale, et 2 jours de marche à pied. Et voilà qu'on marche, et Jean-Claude, il est devant moi, je pense qu'il était à la hauteur de cette armoire là-bas, à une dizaine de mètres, et on monte sur les petits chemins. Tu peux montrer la suivante. Donc dans un petit chemin, il s'enfonce vraiment de plus en plus dans le Népal, avec de la forêt, enfin des falaises, et le torrent. On suit le torrent. Et Jean-Claude, devant moi, il glisse, il chute et il tombe. Et on peut s'arrêter, il tombe là, il est là en bas, il est couché, on ne le voit pas. Et il est tombé et le chemin, il est à peu près ici en haut, vers les poutres là. Et en fait, il est tombé, il est allé se fracasser en bas. Et là, c'était vraiment, avec l'équipe, on était là, mais purée Dieu, on est là pour toi. On veut faire cette mission pour toi. On dépense de l'argent pour toi. Et le gars, il tombe, et il était à moitié mort. Alors aujourd'hui, il est vivant, je vous rassure. Mais là, sur le moment, c'était un drame. Et vous imaginez, 2 jours en retour à pied, il n'y a pas de moto qui peut passer ou de bus, là. Et en plus, c'était au moment où au Népal, il y avait une carburie carburant. Donc tout ce qui était aussi hélicoptère, tout ça, c'était bloqué. Et c'est pas comme ici, tu appelles l'hélico, c'est sûr, ils viennent là-bas. On a appelé l'hélico, ils ont refusé. On a dû appeler l'ambassade pour que eux ensuite fassent la pression pour qu'un hélico vienne. Et là, dans cette situation, je peux dire que je me suis dit, je comprends les disciples qui disent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» Et ce qui m'a d'autant plus frappé, c'est la réponse de Jésus. Et je me suis dit même, comment Jésus peut répondre quelque chose comme ça? C'est fort. Tu peux mettre l'image suivante. Jésus, il est en train de dire à ses disciples dans la tempête, « Mais pourquoi vous avez peur? Où est votre foi ?» C'est fort quand même. On pourrait se dire quand même, Jésus, tu pourrais... Ouais, c'est vrai, je te comprends, Joël, ou je te comprends. C'est vrai que c'est dur. Mais lui, il répond, pourquoi t'as peur? Où est ta foi? Et je me suis posé vraiment cette question, comment ça se fait que Jésus peut se permettre une question pareille? Et j'ai un premier élément de réponse, c'est que déjà, Jésus est plus puissant que toute autre puissance. Et premièrement, c'est parce qu'il sait la réponse. Il peut se permettre de dire ça parce qu'il sait la réponse à sa question. Non seulement il sait la réponse, mais il est la réponse. Quand on voit après, quand il se lève, il se réveille et il menace le vent. Et il dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Et là, il y a un grand calme. Alors à la limite, que le vent il s'arrête, ok. Mais que la mer s'arrête et qu'il y ait un calme plat, c'est divin. C'est divin. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Que Dieu. Et là, il montre à ses disciples, ok, dans la nature, il y a de la puissance, il y a beaucoup de choses qui ont de la puissance, mais lui, sa puissance, elle est au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Et deuxièmement, il pose cette question, et il peut se le permettre de la poser parce qu'on a besoin de lui, on a besoin de sa réponse. Pourquoi avez-vous peur? Ben ouais, c'est légitime d'avoir peur. Eh ben Jésus, si c'est légitime d'avoir peur, puis tu nous dis qu'en fait on ne devrait pas avoir peur. Pourquoi? C'est quoi cette réponse? On a besoin de Jésus, et c'est vrai. Et là je suis en train de vous dire, on a besoin de Jésus, c'est vrai. Et juste avant, qu'est-ce qu'il est en train de faire pendant que les disciples ils galèrent? Il dort. C'est pas sérieux. Je suis en train de te dire que tu as besoin de Jésus, mais lui, pendant que les disciples sont en train de galérer dans la barque, il est en train de dormir. Et ça ne te fait pas penser aussi à une autre histoire, ça? Est-ce que vous trouvez qu'il n'y a pas une histoire qui ressemble avec un bateau qui est submergé aussi par la tempête? Réveillé par les marins qui leur disent qu'ils vont mourir, ça vous fait penser à qui?
Jonas.
Jonas, excellent. Jonas. Donc Jésus et Jonas dans un bateau submergé par la tempête, les deux. Jésus et Jonas réveillés par les marins qui leur disent qu'ils vont mourir. Dans les deux cas, une intervention miraculeuse a eu lieu pour que la mer se calme. Et dans les deux récits, les hommes, les marins, sont plus effrayés par le calme de la tempête que la tempête elle-même. Et c'est énorme que ce texte ressemble autant à cette histoire de Jonas, que Jonas c'est une histoire qui est dans l'Ancien Testament, donc elle a été écrite bien avant. Les historiens la datent bien avant l'autre. Et c'est pas pour rien. Parce que ça nous permet de mettre en lumière une piste et même de la comprendre. Dans Matthieu, à un moment, Jésus il dit à ses disciples et aux gens qui parlent, il dit « Voici, et il parle de lui, il y a plus que Jonas. » En fait, Jésus il est en train de dire bah, « Tu vois, avec Jonas, il a été jeté par-dessus bord et Dieu a calmé la tempête. » Pardon. Tandis que Jésus, il est dans cette tempête et il ne fait pas appel à une force supérieure. Il n'en a pas besoin. C'est lui-même qui dit « Silence, tais-toi !» Parce que lui, il est la puissance. C'est lui la puissance incarnée. Et on n'a pas besoin d'avoir peur avec Jésus. Pourquoi? Parce qu'il nous montre que même si Jonas, la tempête s'est calmée, il a ensuite obéi à Dieu. Quand Jonas est tombé dans l'eau, il est passé 3 jours dans un poisson, dans un ventre d'un poisson. Et après, il a été rejeté sur la mer. Et en fait, quand Jésus dit qu'il y a plus que Jonas, voici je suis Jonas, il fait référence en fait à cette tempête ultime. Jésus vient, ok, il vient, il est tout puissant, mais il vient affronter la tempête ultime. Et c'est quoi la tempête ultime? C'est la mort. Nous tous ici, on est sûr d'une chose, on va mourir un jour. On ne sait pas quand, mais on va mourir un jour. Et si Jésus, dans la barque, il est en train de dire à ses disciples, « N'ayez pas peur. Pourquoi vous avez peur ?» Il peut se permettre de se poser cette question parce que lui, il a vaincu la mort. Et tu le vois quelques chapitres plus loin quand tu tournes un peu là, les pages de ta Bible. Plus tard, tu vois que Jésus, il va à la croix pour toi, pour moi, et il affronte cette tempête ultime. Et trois jours après, comme Jonas, lui, il ne se fait pas recracher par un poisson, mais il est ressuscité. La fête de Pâques. Et Jésus peut se permettre de dire, mais pourquoi vous avez peur ? Et je ne sais pas, je ne vous connais pas tous, je ne sais pas quelle situation vous vivez, mais une chose qui est sûre, c'est que ça, ça reste valable aujourd'hui. Donc, quelle épreuve tu sois, quelle circonstance de vie tu sois, tu es peut-être tout proche de la mort, je ne sais pas, mais si tu es avec Jésus, si tu as placé ta confiance en lui, tu peux te dire, j'ai pas peur de la mort, j'ai pas besoin d'en avoir peur. Je sais que Jésus l'a vaincu pour moi. C'est fort, non ? Hein ? Enfin, ça fait du bien, hein ? Franchement. On sait que Jésus avec moi, plus puissant que toutes mes tempêtes. Mais il y a une question, encore que je ne vous ai pas répondu, j'ai botté en touche, je ne sais pas si vous avez suivi. Je parlais de Jésus qui dormait, puis paf, je suis passé à Jonas. Est-ce que j'essaye d'éviter un petit truc là ou pas ? Non, en fait, et peut-être ça va vous surprendre, mais c'est bien parce que Jésus dort que nous pouvons avoir confiance en lui. Dans ce texte-là, Jésus, il dort. Dans d'autres textes, il mange, il a faim, il a soif, il est triste. Il ne sait pas des choses, il est absent. Et là, on a affaire au paradoxe de l'incarnation. On sait que Jésus est Dieu, on l'a chanté, tu es grand, tu es tout puissant, tu es notre roi. Et là, il dort. Jésus, il est pleinement Dieu, même sur terre. Mais quand le Dieu infini, qui n'a besoin de rien, qui peut être partout à la fois, qui ne peut surtout pas mourir, qui ignore rien. Et bien, quand Dieu devient un homme, tout Dieu qu'il est, il devient réellement un homme avec pratiquement toutes les limitations de la condition humaine. La fatigue, le besoin de manger et de boire, l'impossibilité d'être à deux endroits en même temps, et un cerveau qui n'est pas assez grand pour stocker l'omniscience. Jésus n'est pas en train de faire semblant. Hein, c'est pas comme si je m'habille en haillons, avec des vieux vêtements, et je vais dans un truc, dans un endroit où il y a beaucoup de pauvres, dans un quartier de pauvres, pour essayer de les comprendre. Jésus, il n'est pas en train de faire semblant. Jésus, il est réellement devenu homme. Et ce que nous vivons, ce que nous avons pu vivre, ce que Jean-Claude a pu vivre, les souffrances auxquelles tu fais face, Jésus en tant qu'homme les a réellement vécues. Quand tu t'adresses à Dieu, il sait de quoi tu parles. Ce n'est pas un Dieu lointain, un Dieu indifférent quant à ce que tu vis. C'est tellement grand ce qu'il a fait que, quelles que soient les souffrances qu'on peut vivre et du monde, nous avons l'assurance que Dieu nous comprend. Les disciples ont eu peur. La tempête s'est calmée, le calme est là, les disciples ils tremblent de peur. Ils ont eu plus peur que la tempête elle-même. Et c'est vrai que cette puissance, qui est tellement grande, moi, elle m'a touché dans ce texte. Elle m'a touché. Elle m'a touché dans le sens que j'ai compris aussi ce côté où Jésus est vraiment venu à nous, un amour pour nous. Hein. Quand on voit que Dieu se dépouille, et ça, c'est si ça t'intéresse de creuser, Philippiens 2, il en parle bien, notamment au verset 8, Dieu, il se dépouille. Il se vide de ses attributs divins pour venir sur cette terre. C'est une humiliation hein, pour Dieu. qui vienne lui-même en tant qu'homme pour vivre la condamnation à notre place. Et donc dans ce sens-là, c'est sûr, ok, Dieu il est tout puissant, mais quand je vois ce qu'il a fait pour moi, je n'ai pas besoin d'en avoir peur. Mais cette toute puissance, elle m'inspire quand même une certaine crainte. Et je pense qu'il est bon qu'elle nous inspire une certaine crainte. Pas de peur, mais de respect, plutôt dans le sens du respect. Et d'une crainte de dire, ok, mais si Jésus, il est tout puissant, et qui veut vivre nos vies avec nous ce matin, qui veut changer nos cœurs, qui veut mettre en lumière certaines situations, qui suis-je pour lui refuser la place? Qui suis-je pour lui dire, non, j'ai pas de temps pour toi? Et peut-être avons-nous besoin de se remettre en question face à la toute-puissance de Dieu. Et moi j'aime bien, peut-être ça peut vous encourager, des fois j'aime bien me poser, regarder la nature, particulièrement les montagnes, et me dire, ok Dieu, t'as créé tout ça, effectivement, je vois que t'es bien plus puissant que tout ce que je peux imaginer, j'arrive même pas à tout le saisir. Et pourtant, tu t'intéresses à moi personnellement. C'est dingue! Si tu t'intéresses à moi, je veux tout te donner. Je veux tout te donner. Alors, peut-être des fois aussi on ne comprend pas tout ce que Dieu veut, tout ce qu'il veut nous montrer, tout ce qu'il est. On se dit, ouais, ok, je comprends qu'il m'aime, qu'il est tout puissant, qu'il veut prendre soin de moi, mais je ne sais pas trop comment faire, si je veux vivre avec lui, tout ça. Il y en a une image que j'aime bien, et tu peux mettre l'image 5, s'il te plaît, Olivier. C'est la suivante, encore une. Voilà. En fait, là, c'est l'endroit où Jean-Claude, il est tombé. Et quand Jean-Claude, il est tombé, c'était pas tout de suite le ravin, c'était d'abord un peu un toboggan, une dizaine de mètres, ensuite 16 mètres de chute libre. Et quand il est tombé, tu le vois avec son sac à dos, il se tire, tu vois le désespoir sur lui, et dans son désespoir, il essaye de s'accrocher à tout ce qui se passe. Et ensuite, la chute. La chute, pourquoi? Parce que tout ce qui s'est accroché, ça n'a pas suffi. C'était des petites plantes, des petits arbustes. Tandis que la foi, quand tu dis, ok Seigneur, peut-être je ne comprends pas tout, qu'est-ce qui m'arrive là? Cette vie, ou c'est une chute la vie, on sait tous qu'on va mourir un jour. Et finalement, c'est vite passé une vie. Mais il y a une chose, tu peux dire, je peux m'accrocher. Jésus. Tu ne comprends peut-être pas tout, mais tu peux être sûr que ça, c'est une racine qui tiendra. Et dans toutes les souffrances que tu peux vivre ou que tu vas vivre, tu sais que Jésus, ça lâche pas. Ça lâche pas. Personnellement, moi, j'ai placé ma confiance, j'ai saisi cette branche à l'âge de 15 ans. Et aujourd'hui, je ne le regrette pas. Je suis en paix face à la tempête ultime qui m'attend. Et si tu crois que Jésus est venu donner sa vie pour que nous soyons sauvés, je t'encourage à ne jamais attendre de, entre guillemets, réveiller le maître. Tu vis des soucis, Jésus. Parce qu'on sait que Jésus avec moi, plus puissant que toute tempête. Et si tu as peut-être jamais fait ce pas d'accepter Jésus dans ta vie ou de saisir cette racine, n'hésite pas à venir me voir après. C'est pas compliqué, c'est saisir une branche. Et ce Dieu qui est tout grand, même peut-être qui paraît tellement puissant, tellement peut-être lointain, il est hyper accessible. Après l'accident, donc on était une équipe de frangins-frangines, on était tous chrétiens dans cette équipe. C'est vrai que ça nous a chamboulé là, les plans ils ont changé. Mais un des trucs réels que nous avons pu vivre, c'est de se dire, ok, le pourquoi, il est là. Le pourquoi, on ne le comprend pas. Pourquoi, Seigneur, tu permets cette chute? Aucune réponse. Mais on savait qu'on pouvait lui faire confiance. Si Dieu est Dieu, qu'il est au-dessus de tout, que sa puissance est bien au-dessous de toute autre chose, même de la mort, alors que nous savons que même dans toute situation, nous pouvons être en paix. Ma maman l'a vécu d'une manière assez intéressante. Quand j'étais petit, enfin, j'étais pas encore né, c'était pendant la grossesse, j'étais prévu trisomique. Et pour ma maman, ça a été un choc de se dire, voilà, mais c'était pas prévu, ça. Et de se dire aussi, quand tu as les médecins qui te proposent un avortement ou possibilité d'éviter cette épreuve, de se dire, et c'est elle qui me le raconte, et je me souviens, ça tombait bien avec ce texte, elle me parlait, c'était un peu comme une mère agitée et tantôt calme. Alors des fois, quand l'épreuve revenait, mais c'est ingérable, un enfant comme ça, tu vas pas t'en sortir, c'est trop difficile, et tout ça. Non. Jésus est plus grand que toute épreuve, et il est avec moi. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui aussi devant vous, c'est parce qu'elle a eu cette foi de se dire, cet enfant, je le veux, qu'il soit pas normal ou normal, et qu'est-ce qui est en fin de compte normal, ça c'est une autre question. D'accord, hein? Mais une chose est sûre, c'est que toute épreuve ici-bas, Dieu ne nous abandonnera jamais et ne permettra pas des épreuves qui soient au-dessus de nos forces, si on est avec lui. Alors je vous propose, un dernier petit détail, c'est ma conclusion. Tu dis peut-être, ouais, ok Joël, c'est bien gentil ton histoire, la Bible, tout ça. Ça fait 2000 ans, Jésus, il n'est plus là. Hein. Ça fait longtemps qu'il est remonté dans son ciel et on ne l'a pas vu depuis. T'es d'accord? Mais... Mais avant de partir, dans Jean 16, 7, Jésus a dit ceci. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Il est avantageux que je m'en aille. Pourquoi ? Parce que Jésus était sous conditions humaines. On l'a vu, limité à des conditions humaines. Donc il repart, mais il ne nous laisse pas seuls. Il nous laisse son Saint-Esprit, le consolateur. Et quand tu places ta confiance en Jésus, quand tu vis cette vie avec Jésus, tu sais que Jésus a sa place dans ta vie. Il est dans cette barque avec toi. Et tu sais que cette puissance, qui est au-delà de toute puissance, elle veut t'accompagner. Mes chers amis, soyez bénis, soyez consolés. Soyez réjouis des futures épreuves qui vous attendent. Et que Dieu nous garde ensemble à s'encourager aussi. On va se mettre un petit son, et cette fois, le son qui va passer, c'est le son d'une mer qui est calme. Et même c'est la nuit, je crois qu'il y a des petits grillons, vous entendrez. Et je vous invite pendant ce temps à vous dire, ok, on parle de tempête, on voit que Jésus, il veut nous accompagner dans toutes les tempêtes de notre vie. Et on voit même que Jésus a accompli, enfin qu'il a vaincu la tempête ultime, la mort et le péché. Et je vous invite à vous dire, est-ce qu'il y a des tempêtes dans ma vie aujourd'hui? Est-ce que la tempête peut-être ultime me fait peur? Ou est-ce qu'il y a d'autres tempêtes où Jésus, le Consolateur, n'a pas pris sa place? Et à la fin de ce ton de son, je vous invite à simplement vivre ce que Jacques nous enseigne, à prier les uns pour les autres afin qu'on soit guéri en confessant nos péchés. Et peut-être il y a des choses que tu dis, ça Seigneur, j'ai besoin de te le remettre et te le dire. Et sentez-vous libre de le faire, on est en famille. Toutefois, je sais qu'on a un grand groupe, donc ne vous gênez pas si c'est trop personnel d'aller voir un frère ou une sœur à la fin du culte pour dire, franchement, on peut prier un moment, j'ai besoin de dire ça. Et profitez, on a parlé de communion fraternelle avec Mick, mais les petits groupes, je vous encourage. Ici, on se réjouit, on loue le Seigneur ensemble, on vit des choses magnifiques un dimanche matin. Mais on est encore dans cette période, hein, quand Jésus dit, allons de l'autre côté. Marc 5, 1, et ils passèrent de l'autre côté. On est encore entre les deux. On sait qu'un jour, on n'aura plus de tempête, que toutes les tempêtes seront détruites. Mais pour l'instant, on est encore en pleine mer, où la tempête peut faire rage. Et dans ces tempêtes, nous avons à lutter. Et dans cette lutte, nous ne sommes pas seuls. Le Seigneur veut prendre soin de nous, mais on est aussi ensemble, frères et sœurs. Et dans ce contexte-là, prenez ça au sérieux, et moi ça m'a marqué, mais cette puissance qui est au-dessus de tout, qui veut agir à travers nous contre toutes ces épreuves, c'est pas pour rien qu'elle est autant puissante. Et de vous dire, ok, mais si je veux un petit groupe, c'est pas juste parce que la vie, parce que Daniel ou les anciens, ils me le demandent. Non, c'est parce que je suis conscient que les tempêtes de ma vie ont besoin de la plus grande puissance qui soit pour qu'elle soit vécue en paix, pour que le péché soit mis en lumière, pour que cette lutte puisse être victorieuse. Et nous avons besoin de nous encourager ensemble. Et ne vous privez pas de ça. Je vous encourage même, vous rentrez, vous prenez votre agenda, gros stylo indélébile et des trucs, vous dites, mais ça, mais depuis trop longtemps, je prends trop de temps pour ça. Allez loin. Et ce soir-là, je vais être au petit groupe. Bénissez-vous ensemble. Allez, je vous laisse avec ce son et ces réflexions. Merci de m'avoir écouté.
dont j'ai besoin. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. Oui, pour toujours, oui, pour toujours. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. Oui, pour toujours, oui, pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi. Oui, pour toujours, oui, pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi. Oui, pour toujours. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin.
Ouais, tout ce dont j'ai besoin est en Christ. Et c'est en Christ qu'il peut se passer ce miracle, c'est-à-dire de pouvoir dormir en pleine tempête, ce qui normalement est pas normal. Mais peut-être vous avez pu faire cette expérience-là, en pleine tempête, de pouvoir recevoir cette paix, en sachant que Jésus avait remporté la victoire, qu'il était passé par la tempête avant nous, et savoir que voilà, tout est accompli. Recevoir cette paix. On a chanté tout à l'heure « Ne crains pas la tempête, parce que Christ seul me suffit », c'est la réponse. On arrive à la fin de ce culte, en fait, et j'aimerais simplement vous laisser cette parole de bénédiction, que Dieu puisse vous remplir de cette paix-là. Et j'aimerais vous donner aussi un petit devoir pour cette fin de culte. On a parlé de communion fraternelle, et on a dit que notre sanctification commence lorsque nous commençons à servir les autres. Notre sanctification se passe si on commence à servir les autres. Et on peut le faire justement parce qu'on sait que Jésus-Christ a remporté la victoire. On peut encourager les autres. On peut s'encourager les uns les autres parce qu'il a porté nos fardeaux. Alors ce que je vous propose, c'est que vous puissiez à la fin de ce culte aller voir quelqu'un. Peut-être c'est une personne à laquelle vous n'avez peut-être pas encore parlé très souvent. Pourquoi pas aller vers une personne que vous ne connaissez pas encore très bien. Et pourquoi pas lui demander comment est-ce que je peux prier pour toi cette semaine. Est-ce qu'il y a un fardeau en ce moment, par exemple, que tu veux me partager, que je peux prier pour toi. Laissez-vous peut-être inspirer, là, prenez peut-être quelques secondes simplement pour vous laisser inspirer. Est-ce qu'il y a une personne vers laquelle Dieu vous demande d'aller à la fin de ce culte pour lui demander comment est-ce que je peux prier pour toi? Puis peut-être vous aurez la conviction de prier tout de suite pour lui. On a le droit de prier même quand le culte est fini, s'il n'y a pas de problème. Vous pouvez prier tout de suite, là, comme ça, à deux, ça se passe très bien aussi. C'est possible. Donc n'hésitez pas si vous vous sentez appelé à le faire ou que la personne en face de vous vous le demande. Et sinon, bah, si elle préfère que vous emmenez ce sujet avec vous, bah, vous le prenez avec vous puis vous priez pour elle. Puis vous demander des nouvelles pendant la semaine peut-être, ou comme ça, vous demander où elle en est. Voilà, on veut porter les fardeaux les uns des autres. Voilà, vous avez reçu peut-être un prénom, une conviction, ou sinon demandez encore à Dieu de vous conduire. Et on va terminer avec un dernier chant, et après ça le culte sera terminé, et on aura le temps gentiment de préparer l'agape aussi. Et donc ce chant c'est « Nous sommes une seule église d'Antidote ».
Et c'est du même Créateur, le même souffle nous a donné la vie. Tous aussi perdus, tous aussi pécheurs, nous avons eu la chance qu'il nous attire à lui. Il nous a trouvés si précieux. Il a choisi de quitter les cieux. Malgré sa colère, notre rébellion, de l'esprit, et nous n'aurons qu'un seul rêve, que cette nation connaisse le nom de Jésus-Christ. Louons Dieu pour nos différences, abandonnons les médisances, que l'œuvre du diable soit mise en lumière, que le Père fasse tomber les barrières. Nous sommes une seule Église. Les élus de tous les temps, avec les anges et nous ici présents, passons l'éternité ensemble à l'adorer. Alors dès maintenant, vivons dans l'unité. On verra que d'ici à l'amour qui nous unira. Nous n'aurons qu'un seul but, élever Jésus et que son salut soit répandu. Nous n'avons qu'un seul Père, nous n'avons qu'un Sauveur qui pour nous s'est offert quand nous étions Nous n'avons qu'un seul roi, nous n'avons qu'une seule foi. Au pied de la croix se brise ce qui nous divise. Nous sommes une seule Église. Nous n'avons qu'un seul Père, nous n'avons qu'un Sauveur qui pour nous sait. Nous sommes une seule Église.
Et voilà, le temps de célébration s'achève, mais le temps de communion fraternelle, lui, ne fait que commencer. Que Dieu vous bénisse dans vos échanges.